Voilà, nous étudions donc cette lettre que Paul a écrite à l'église qui se trouvait à Éphèse. Et comme nous avons dit, beaucoup pensent que cette lettre était destinée à circuler dans plusieurs églises, puisqu'il y avait plusieurs églises qui gravitaient autour de l'église mère, en tout cas l'église dans la grande ville d'Éphèse. Et donc ils étaient, on voit dans le Nouveau Testament un aperçu d'une union d'églises, un réseau d'églises autour d'Éphèse. Alors si c'était à notre époque, il se serait certainement appelé l'Union des Églises Évangéliques des Environs d'Éphèse, c'est-à-dire l'EEE, qui est pas mal. Nos jeunes, vous savez, ils ont le projet cette année des 4K, les 4K, c'est-à-dire ils rendent visite, ils servent les églises de Carcassonne, de Cahors, de Carmo et la semaine prochaine de Castres. Et c'est un reflet de ce que nous voulons faire avec des échanges avec d'autres églises. Ici, c'est déjà été un réseau, une union d'églises que Paul veut encourager. Mais en tout cas, maintenant, il est en prison, comme il dit dans le premier verset, et il ne peut plus circuler parmi ces églises et les encourager, les exhorter. Mais on voit vraiment ce qui est son fardeau, son souhait pour ces églises, et notamment cette église à Éphèse. C'est l'unité. Tous les commentaires disent que c'est le mot-clé, le thème majeur de l'épître, l'unité. Et ça apparaît clairement dans notre texte. Nous avons déjà parlé de cette unité. Nous avons parlé dans le premier chapitre, on va dire l'unité cosmique, l'harmonie universelle qui est le dessein de Dieu pour toutes choses. Chapitre 1, verset 10 disait que Dieu veut réunir toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Il veut les réunir en Christ et ça c'est le dessein. Avec tout ce qu'il a mis en place pour réussir ce dessein final de réunir toutes choses et d'arriver à cette harmonie universelle auquel l'homme aspire. Et pour réunir toutes choses, il faut être réconcilié avec Dieu, on a parlé de ça, et puis il faut aussi, il a montré comment l'évangile réunit notamment les ethnies, les juifs et les païens, et toutes les ethnies dans l'église. Nous avons traité ces sujets déjà. Mais Paul veut montrer que l'église de Jésus-Christ, c'est, on va dire, le modèle d'exposition, c'est le projet pilote pour donner un aperçu de l'unité finale, qui est la destinée de l'univers. L'Église, c'est une maquette de ce qui vient pour l'éternité, l'union, l'unité parfaite. Mais comme vous savez, un modèle d'exposition peut avoir quelques défauts, c'est pour ça qu'on vous le vend un peu moins cher, tout comme l'Église ici-bas a quelques défauts, mais nous tendons vers la perfection et l'unité. Une maquette, c'est jamais la plein accomplissement, c'est sur une petite échelle, pour donner un aperçu de la chose vraie qui arrive. Et nous, l'Église, nous vivons aujourd'hui sur petite échelle, mais vraiment l'unité qui témoigne de l'avenir. Et ça, c'est notre vocation, et c'est une vocation glorieuse, c'est une vocation merveilleuse. Il avait expliqué tout ça, et puis il appelle donc les chrétiens à vivre d'une manière digne de cette vocation, de vivre cette unité notamment. Et donc à partir de chapitre 4, Paul devient plus concret, plus pratique, pour réussir, on va dire, l'unité dans les relations humaines, dans l'église, dans le foyer. Et là, il dit, c'est le mot d'ordre, c'est sa pensée qui ressort en verset 3, notamment, je vous exhorte à vous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà le grand défi pour toute église, conserver l'unité de l'esprit. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas à nous de créer cette unité, c'est un fait, c'est un donné, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de l'Esprit par l'Évangile. Et donc, il s'agit simplement de le conserver. Mais ce n'est pas toujours simple. Et c'est pour ça qu'il dit, efforcez-vous de conserver l'unité. Certainement, cela ne remonte pas très loin, la dernière fois que vous avez dû faire un effort pour préserver l'unité avec vos frères et sœurs assis à côté de vous. Mais vous l'avez fait, et c'est parce que l'Esprit agi en vous. Et ce passage nous apprend qu'on ne peut pas grandir dans notre foi, on ne peut pas partager notre foi avec le monde qui nous regarde, sans la vivre en communauté avec d'autres, et dans l'unité que crée Dieu. Alors, c'est ce que nous allons voir ce matin. Le besoin de pratiquer l'unité chrétienne n'est pas facultative, mais on a tous les moyens pour le faire. Et Paul va nous aider donc à conserver l'unité de l'esprit dans notre vie d'église. Alors, pour conserver cette unité, il va parler de l'importance de la doctrine, ensuite l'importance des dons différents, et enfin l'importance de la douceur. Je m'entends par là aussi l'amour. L'importance de la doctrine, l'importance des dons différents et l'importance de la douceur. Donc dans les versets 4 à 6, c'est là où on voit l'importance de la doctrine. Parce qu'ici, Paul reprend dans ces trois phrases un seul esprit, un seul corps, un seul Seigneur, un seul Dieu. Il reprend les éléments qu'on trouve dans une confession de foi chrétienne. Il reprend les éléments du credo chrétien. Et la doctrine, finalement, c'est l'effort de préciser ces termes. Dès qu'on pose la question, mais quel est ce corps? Quel est ce baptême? Quel est cet esprit? Quelle est cette foi? Qui est ce Dieu? Quand on pose ces questions et qu'on cherche à répondre de manière un peu plus précise, eh bien, on fait de la doctrine. Et c'est ce qu'on fait dans nos cellules en ce moment, notamment les cellules du mardi soir. Qui est ce Dieu? Quels sont ses attributs? Et là, c'est la doctrine. Et vous voyez, c'est le souci de Paul dans ce passage, quand même, la doctrine. Il dit que même les dons, dont on va parler plus tard, sont le but, c'est pour arriver à l'unité de la foi et ne pas être ballotté par tout vent de doctrine, verset 14, avec l'importance de professer la vérité dans l'amour. Or, c'est ça qui semble étonnant, parce que quand on parle de la doctrine, cela peut sembler un frein à l'unité. Aujourd'hui, dans la pensée de la plupart, l'unité nécessite forcément une mise de côté de la vérité, en tout cas une précision de la vérité, de la doctrine. Mais nous croyons que l'unité de l'esprit, ce n'est pas balancer la vérité. Au contraire, c'est en allant vers une conception robuste de la vérité qu'on arrive de plus en plus à l'unité. Vous avez remarqué que dans ces phrases, dans les versets 4 à 6, il dit il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Un seul, c'est un terme très exclusif, on pourrait dire très fermé, très intolérant. Cela ne paraît pas très rassembleur, très unificateur de parler de ces choses exclusives, seules. Mais, comme vous savez, la vraie unité, c'est toujours autour des choses en commun. L'unité vient de quelque chose d'unique que nous avons en commun. Alors, plus on va vers ces choses, plus on a une compréhension de ces choses, plus l'unité est forte dans l'Église. Et d'ailleurs, même des groupes qui se veulent très inclusives, très ouverts, par exemple une association LGBT, des Pride, qui se veulent très ouverts, très inclusifs, eux-mêmes vont avoir des principes qui délimitent leur conviction. Donc tout le monde finalement a des limites, a des barrières, mais c'est plutôt dans l'attitude que nous vivons ces choses. Notamment en matière de religion, c'est un peu notre époque, dans un souci d'unité et de fraternité, tout le monde aimerait penser que tous les chemins mènent au ciel. Et on n'aime pas ce langage, une seule foi, un seul Seigneur. On aimerait pouvoir dire, en pensant que ça peut aider pour l'unité du pays, ou l'unité de l'humanité, on aimerait dire plutôt que tous les chemins mènent au ciel. Mais quand on creuse un peu cette phrase, personne ne croit vraiment que tous les chemins mènent au ciel. Là, on a vu des images un peu choquantes des bourreaux qui exécutent des chrétiens éthiopiens. Personne dirait ils sont sur le même chemin finalement qui mène au ciel. Non, personne ne croit ça. Donc il est tout simplement faux de dire tous les chemins mènent au ciel. Au mieux, les gens qui disent ça, ils pensent aux grandes religions, par exemple le catholicisme, le judaïsme et l'islam. Mais même ça, ils excluent en général les sectes et les extrêmes. Mais Même là, c'est compliqué de dire que c'est la même chose, c'est uni. On ne peut pas dire ça. Parce qu'il suffit de poser une simple question à ces trois religions, notamment qui est Dieu. Si vous posez la question qui est Dieu à l'islam, au judaïsme et au catholicisme, vous avez trois réponses très différentes, des réponses complètement incompatibles. Donc, on ne peut pas créer l'unité juste en disant c'est tout pareil, parce que ce n'est pas tout pareil. Et tout le monde sait au fond que l'unité ne vient pas lorsqu'on on enlève la vérité. Mais Paul va nous aider, parce qu'il dit en verset 13 notamment que l'unité de la foi, c'est lié à la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez ça en verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc l'unité de la foi, cette foi qui nous unit, eh bien, c'est lié à une connaissance juste, notamment du Fils de Dieu, de Jésus. C'est ça qui fait la différence. Et en tant que chrétien, c'est là où nous voulons mettre l'accent, notamment sur en parlant de la doctrine, on parle de la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ce qui nous importe, ce qui nous unit, c'est les vérités qui sont au cœur de l'Évangile. C'est ça, l'Évangile, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous, qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Et ce qui favorise l'unité dans l'Église, vous le savez, ce n'est pas connaître un minimum sur Jésus, mais c'est connaître un maximum sur Jésus et avancer dans une connaissance, un attachement, un amour pour Jésus-Christ. Et quand tout le monde fait ça, cette recherche de la vérité, la doctrine évangélique, on va dire, ça crée une unité très forte. D'ailleurs, dans un corps, par exemple, un corps humain, chaque cellule contient le même ADN. C'est comme ça qu'on peut repérer que tel membre fait partie de tel corps, parce que chaque cellule a le même ADN d'un seul corps. Alors, nous croyons qu'il y a un ADN qui vient de la connaissance de Jésus, un ADN qui vient de l'Évangile, on va dire un ADN évangélique, puisque c'est au cœur de notre foi. Et cet ADN évangélique, c'est ça qui va nous permettre d'être unis et de reconnaître les membres du même corps. Et pour notre Église, notamment, nous voulons que l'Évangile, la connaissance du Fils de Dieu, les vérités qui concernent sa personne, nous voulons que l'Évangile soit l'ADN de notre assemblée et que tous les membres, tous les ministères, toutes les réunions, on puisse retrouver cet ADN qui est l'Évangile, qui est Jésus-Christ. Et c'est ça qui va produire une unité, puisque plus on s'attache à lui, plus on s'attache aux vérités concernant sa personne, plus cela nous relie ensemble et produit l'unité. Donc, vous voyez, on ne peut pas minimiser l'importance de la doctrine, mais c'est justement en cherchant à mieux connaître Dieu, qui il est, ce qu'il a fait pour nous, que nous devenons de plus en plus unis. Ensuite, nous voyons l'importance ici dans ce passage des dons différents. Donc, Paul, après avoir parlé de tout ce que nous avons en commun, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, après avoir parlé de tout ce que nous avons en commun, il dit en verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc là, il fait un contraste entre tout ce qui nous unit, tout ce que nous avons en commun, tout ce qui est pareil, et puis ce qui va être différent dans l'Église. Mais chacun est différent. Donc il est en train de dire que l'unité n'est pas l'uniformité dans l'Église. Et après ça, il cite un passage de l'Ancien Testament. Il a une réflexion qui nous paraît parfois un peu compliquée. Mais ce qu'il faut retenir de ces versets, c'est que Jésus, notamment par son incarnation, sa descente sur terre, et puis sa mort et sa résurrection, eh bien, il a remporté le droit et l'honneur de donner des dons. C'est un peu comme le butin de la victoire d'un roi conquérant. C'est ce que Jésus a fait, il a vaincu la mort, il a gagné, et puis par sa résurrection, il obtient le droit, le privilège, l'honneur de distribuer des dons. Et Paul dit, ça c'est une image de l'Église de Jésus-Christ, ce qu'il a fait par sa résurrection, et il a fait des dons à son corps, à son assemblée, à son Église. Et ces dons, nous croyons, sont des capacités de servir et d'être utiles pour édifier toute l'Église. Et puis même, il utilise le mot « don » dans plusieurs sens. C'est des capacités que Dieu donne à des hommes. Et puis en verset 11, Il dit que les dons sont aussi des personnes elles-mêmes. Les dons qu'il fait à l'Église, ce sont des hommes, des personnes qui servent avec les capacités qu'ils donnent. Donc les dons, c'est à la fois une capacité, les dons, c'est à la fois la personne elle-même. Ici, Paul, dans le verset 11, il mentionne surtout les dons qui concernent la direction et la structure de l'Église, des ministères d'enseignement de la parole, notamment. Mais dans d'autres passages du Nouveau Testament, il élargit sa liste des dons différents. Et comme il affirme en verset 7, à chacun de nous, la grâce, un don, c'est le mot, a été donné selon la mesure du don de Christ. Le but de ces dons, c'est d'équiper tous les membres de l'Église, tous les saints, à servir pour édifier tout le corps de Christ. Et si vous regardez bien le verset 12, qui fait l'œuvre du ministère de l'Église? Qui fait le travail dans l'Église? Le verset 11 et 12 dit que le but de certains dons, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, le vrai travail de l'Église, on va dire, c'est fait par tout le monde. Dieu donne des dons pour équiper à certains, pour équiper toute l'assemblée, pour que tous soient au service. D'ailleurs, le mot ministère, c'est le mot diaconat. Donc, quelque part, il est en train de dire que tous les membres sont des diacres, dans un sens. Tous les membres sont des serviteurs, tous les membres sont des ministres pour que l'Église grandisse et avance en Jésus-Christ. Donc, il dit en verset 11 qu'il y a des offices particuliers. Nous reconnaissons certaines personnes ayant cette fonction, comme des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Et donc, ça rappelle qu'il y a, il y a une place pour des rôles reconnus, officiels dans l'Église. Mais il y a aussi le rappel que le ministère, le travail, est une affaire de tous. Et quel est le but de tous ces dons différents? Eh bien, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc le but de tout ça, c'est que nous grandissions ensemble dans l'unité de la foi. Alors comment ces dons différents peuvent aider vers l'unité? Parce que parfois c'est ça qui est difficile. Quand il y a des différences, c'est difficile de s'unir. Mais c'est des dons différents ici qui vont aider à conserver l'unité. Comment ça marche? Ben, tout d'abord, déjà, ça aide de reconnaître qu'il y a des dons différents. Et des dons différents dans des doses différentes. C'est ce qu'il dit en verset 7, selon la mesure, selon la dose que Christ a décidé de donner. Donc, il donne des dons différents, dans des doses différentes, aux membres de son Église. Je sais qu'en tant que parent, par exemple, à Noël, on essaie de donner des cadeaux, des dons à nos enfants. Et on n'a jamais donné exactement le même cadeau à tous les enfants. Il faut, avec la petite sagesse qu'on peut avoir, il faut parfois faire une différence entre des cadeaux pour garçons, des cadeaux pour filles, ou des cadeaux pour tel âge ou tel âge. Tout ne sera pas content de recevoir un jouet de bébé. Et dans les cadeaux, certains sont plus grands en taille, d'autres sont petits, mais ce n'est pas forcément la taille de l'emballage qui définit la valeur non plus. En tout cas, il y a des différences dans les dons que nous donnons, mais quelles que soient ces différences, nous aimons tous nos enfants de la même manière. Ce n'est pas une preuve que nous aimons tel enfant plus parce que nous lui donnons un vélo et qu'un autre enfant n'a pas eu un vélo ce Noël. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, déjà entre nous les chrétiens, Dieu, dans la grande sagesse qu'il a, il repartit des dons différemment. Il nous aime tous de la même manière. Et donc, c'est inutile, nous, entre chrétiens, de se jalouser ou d'être mécontents de la manière qu'il nous a créé, de la manière qu'il nous a fait. Ça nuirait à l'unité si on était constamment dans la jalousie. Donc c'est déjà un atout pour l'unité de reconnaître qu'il y a des dons différents. Et puis il faut savoir que oui, il y a des dons différents, mais justement Dieu a fait ça parce qu'on a besoin de tous. Imaginons une journée de travaux à la nouvelle salle, par exemple. Peut-être pas trop difficile à imaginer. Et que le chef de chantier prend un groupe avec lui et dit « Ok, toi, voici une perceuse, toi, voici un marteau, Toi, voici un tournevis. Toi, voici un niveau. Et donc, votre projet, c'est de me faire une étagère, de monter cette étagère ici. Il y a une perceuse, il y a un marteau, il y a un tournevis, il y a un niveau. Vous avez tous les outils pour le faire. Alors, on peut imaginer qu'un d'eux, qui est plus doué en bricolage peut-être que les autres, dise, bon, donnez-moi tous vos outils, moi je m'occupe, je vous mets au chômage, je fais l'étagère, tout ça, ce serait plus simple, ce serait mieux fait, ce serait plus vite fait. Et voilà. Non, ce n'était pas le but du chef de chantier, il voulait que l'équipe travaille ensemble et l'unité serait plus... mieux atteinte si chacun utilise l'outil, le don qui a été alloué par le chef de chantier pour arriver au même but. Et ça, c'est ce que Dieu a voulu pour nous. Il a donné chacun, c'est comme ses outils. Et il dit maintenant, votre travail, c'est d'édifier l'Église ensemble. Et il ne faut pas qu'un dise, bon, je m'occupe de tout, je vous mets au chômage. Ce serait complètement faux. Le projet, c'est de grandir, d'apprendre ensemble, de croître ensemble, comme cette petite équipe. Peut-être l'un bricole mieux que les autres, mais dans ce cas-là, son travail, c'est d'apprendre aux autres de mieux utiliser un tournevis ou un niveau ou une perceuse. Et en faisant ça, tous grandissent ensemble, au lieu que l'un grandit beaucoup et les autres restent en arrière. Et c'est comme ça que le corps grandit. Et l'image du corps est tellement forte ici, dans le texte. Il veut que tout le corps croisse ensemble, comme dit un verset. D'ailleurs, ce serait bizarre en voyant si juste un bras, s'il y avait juste mon bras qui grandissait et pas le reste de mon corps. C'est un drôle d'effet. Et à l'inverse, ce serait bizarre si tout le corps grandissait sauf un bras. Il y a des maladies qui peuvent produire chez soi, mais ce sont justement des maladies. Donc, le but, c'est que tous nous grandissons ensemble et pas juste un bras qui grandit et que tout le corps ne grandit pas ou que tout le corps grandit et d'autres membres ne grandissent pas. Non, le but des dons, c'est utiliser, chacun utilise son don pour faire grandir les autres. Et effectivement, la meilleure chose pour conserver l'unité dans l'Église, c'est quand les dons et les personnes s'alignent avec les ministères et les rôles qui correspondent. Voilà, il vaut mieux que la perceuse s'occupe de faire le trou que faire le niveau. Donc, c'est un défi pour l'Église d'accorder les dons et les besoins de l'Église. Mais c'est ce qu'il dit en verset 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des membres. Une meilleure traduction serait selon le rôle de chaque partie, de chaque membre, selon le rôle. Et on sait que dans d'autres passages, Paul développe cette image. Par exemple, il va dire qu'il ne faut pas que l'œil insiste à faire l'audition. Ça marche moins bien. Donc, il dit l'œil, par exemple, ce serait très bien que l'œil s'occupe de voir. Ah oui. Et que l'oreille s'occupe d'entendre. Et c'est bête, mais il encourage les chrétiens que celui qui a ce don fasse ça. Je sais qu'avec Vincent, en réfléchissant, on a souvent constaté que ce qui empêche la croissance des églises et des chrétiens, c'est une structure bancale, notamment parmi les responsables, où visiblement les dons ne correspondent pas aux postes et aux fonctions. On peut avoir une excellente confession de foi. On peut avoir beaucoup d'amour et de bonne disposition entre frères, mais si on néglige la vision qui apparaît dans ces versets, tôt ou tard, ça va capoter. Et donc, nous voulons avoir cette réflexion, voir l'importance des dons différents. Et ces dons différents sont là pour conserver l'unité. Quand on vit ces dons différents, c'est comme l'unité d'un corps humain, c'est grâce au fait qu'il y a beaucoup d'organes différents. Ce qui préserve l'unité. Je termine ce point avec encore une petite illustration. On remonte à l'époque médiévale. On imagine trois maçons qui construisent la cathédrale de Chartres. Chaque maçon fait la même activité, d'accord ? C'est des maçons. Alors, on vient voir les maçons et on va poser la même question à chacun. Qu'est-ce que tu fais là ? là en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Et donc on pose la question au premier maçon, qu'est-ce que tu fais toi? Et il dit, moi je pose une pierre. Effectivement, c'est ce qu'il est en train de faire, de poser une pierre. Ok, très bien. On demande au deuxième maçon, qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Il fait la même chose, mais lui il répond, moi je construis un mur. Très bien. Et puis au troisième, on pose la même question, et lui est en train de faire la même chose, et on lui dit, et toi qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi je construis une cathédrale. Alors, ils ont tous répondu juste, mais le dernier réponse, c'est celui qui avait la finalité en tête et la finalité grandiose. Et lui, peut-être plus que les autres, lui, il va vivre une unité avec les autres corps de métier, parce que le vitrier qui a cette même pensée, qu'est-ce que toi tu fais? Ben, moi, je construis une cathédrale. Donc, nous faisons la même chose. Donc, nous sommes unis. Et ça, c'est donc, je prends l'image d'une cathédrale. Juste pour une image, c'est pas forcément ce que Dieu nous appelle à faire en tant qu'église, mais on peut le vivre nous, ici dans l'église. On va voir quelqu'un qui est ici dans cette salle et on lui pose la question, qu'est-ce que toi tu es en train de faire? La personne va répondre, moi je fais le ménage. Et un autre va dire, moi je rends service à mes frères et mes sœurs pour la réunion de dimanche, pour que la salle soit propre. Et un troisième va dire, moi, j'édifie le corps de Christ, l'église de Jésus-Christ, l'institution la plus belle, la plus glorieuse, qui dure éternellement. Voici ce que moi je fais. Et tous les trois ont dit vrai, mais d'avoir cette dernière vision en tête, que moi, j'édifie le corps de Christ, cette institution qui est seule, permanente, qui dure dans l'éternité, eh bien, finalement, lui, il va vivre son don dans l'unité avec les autres. L'avantage du ménage, en plus, c'est un don spirituel que tout le monde a. On n'a peut-être pas la disponibilité, on n'a peut-être pas le désir ou l'envie, mais on a le don. N'est-ce pas, Rosa? Mais vous voyez comment les dons différents, très différents, peuvent néanmoins contribuer à conserver l'unité. Et on veut vivre ça. Donc l'importance de la doctrine, l'importance des dons différents, et enfin l'importance de la douceur et l'amour. J'ai pris douceur parce que ça allait avec les points, mais il allie douceur à amour, notamment dans verset 2, il nous appelle « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour. » Tout ce qu'on vient de dire sur la doctrine et sur les dons ne sert à rien s'il n'y a pas la douceur et l'amour. Et c'est fort que dans ce passage, Paul commence avec ça, il termine avec ça. En verset 2, il parle de l'amour, et en verset 16, c'est le dernier mot du passage, et tout le corps s'édifie dans l'amour. Il a dit quasiment la même chose aux Colossiens, il a dû écrire ces deux épîtres quasiment en même temps. Et comme parfois, quand on écrit deux mails au même sujet à deux personnes différentes, les deux mails peuvent se ressembler. C'est certainement le cas entre Éphésiens et Colossiens, mais dans la même partie, il dit « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Et comme il dit aux Corinthiens, on peut avoir tous les dons, on peut avoir toute la doctrine, toute la connaissance, mais si on n'a pas l'amour, cela ne sert à rien. Et cet amour, nous pouvons la vivre entre nous dans l'Église et aussi envers d'autres églises, d'autres chrétiens. Un grand débat entre pasteurs et théologiens, c'est de se poser la question, est-ce que Paul, ici dans ce chapitre, Paul parle de l'Église locale, comme le BTM, ou est-ce qu'il parle de l'Église au sens large, l'Église universelle, c'est-à-dire tous les chrétiens? Et je pense qu'il ne faut pas fixer si l'un ou l'autre, s'il parle des deux, quand il nous demande de vivre avec amour et douceur, c'est forcément au sein de la communauté. C'est là où ça va devoir de supporter les uns et les autres. Chaque fois dans la Bible, on parle des uns et des autres. Ça sous-entend une vie de collectivité, une vie d'église locale. Donc quand il dit ça, c'est sûr, il a l'église locale en tête. Après, quand il parle d'un seul corps, il parle même des apôtres. C'est des dons qui aussi ont été donnés à une église au sens plus large. Et nous croyons que là aussi nous pouvons vivre, manifester l'amour et le service envers d'autres églises qui partagent avec nous la même foi, le même Seigneur, le même baptême, la même espérance, le même Dieu. C'est pour ça que d'ailleurs notre Église en ce moment est en réflexion pour adhérer au réseau FEP. Justement, il nous paraît important et intéressant de officialiser, en tout cas vivre cet amour, cette union avec d'autres églises qui partagent les mêmes choses avec nous. Mais le défi, bien sûr, dans tout ça, c'est de trouver l'équilibre entre la doctrine, les dons et la douceur et l'amour. Certaines églises mettent beaucoup d'accent sur les dons spirituels et peu sur la doctrine, finalement, et elles font fausse route. D'autres mettent beaucoup d'accent sur la doctrine, mais elles oublient l'amour et se replient souvent sur elles-mêmes. D'autres mettent beaucoup d'accent sur l'amour en communauté, mais ils ignorent la structure, ils ignorent la mise en place des dons et des responsables, et ça prend pas longtemps avant que cela n'explose. Alors la vraie unité, c'est d'arriver à préserver toutes ces choses à la fois, et on essaie, tout en reconnaissant qu'aucune église n'est parfaite, on tend vers l'unité de la foi, on tend vers la stature parfaite. Il y a toujours une étape suivante de maturité à faire pour toute église, quelle que soit sa taille et son histoire. Mais ce qui est beau, c'est de constater que chacun joue sur les autres. La doctrine va servir à l'amour. Mieux on connaît la doctrine de l'Évangile, par exemple, mieux on mesure l'amour de Dieu pour nous, mieux on peut aimer les uns les autres. Les dons. Le but des dons, il avait dit, c'est pour que la parole soit mieux enseignée et que chacun avance dans la connaissance, dans la doctrine. Donc les dons sont donnés pour que l'Église apprenne la doctrine. Et l'amour sert aussi à mieux vivre ces choses. Donc c'est un ensemble et chacune est au service de l'autre. J'aimerais conclure en rappelant, ce n'est pas un quatrième point vraiment, mais c'est ma conclusion, l'importance du Dieu trinitaire. Et c'est un résumé de tous les autres en fait. La clé de l'unité pour nous les chrétiens, c'est le Dieu chrétien, c'est le Dieu de la Bible, c'est lui. L'unité vient de lui, c'est grâce à lui, c'est lui qui remplit tout et en tous. Et c'est parce que Dieu est trinité que l'unité est une valeur si forte chez les chrétiens. Vous avez remarqué que dans les versets 4 à 6, la formule même est très trinitaire. Il y a trois phrases et chaque phrase a trois choses. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Deuxième phrase, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Troisième phrase, un seul Dieu qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Donc 3x3. Et cet épître met beaucoup l'accent sur Dieu qui est Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ce que chacun a fait pour notre salut. Nous avons vu ça en chapitre 1, Dieu le Père qui va choisir, qui prédestine, le Fils qui se donne, qui rachète les pécheurs, le Saint-Esprit qui engage des arts. Donc toute cette épître met l'accent sur notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est ce Dieu qui existe en trois personnes, qui inspire même la formulation de cette foi. Alors je me dis, les messages en trois points, c'est biblique après tout, peut-être. En tout cas, ce Dieu qui existe en trois, une communion, une unité parfaite depuis toute éternité, c'est grâce à lui que nous pouvons vivre cette unité. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils étaient unis depuis tout temps, mais ils avaient des rôles, des dons différents, c'est-à-dire qu'ils allaient agir de manière différente, le Père faisant une chose dans le salut, dans le plan de salut, le Fils, le Saint-Esprit, chacun selon les rôles. Donc là, c'est l'unité avec une diversité, c'est le cas par excellence de cette chose. Et ce qui est fort, ce qui nous touche, ce qui nous pousse à l'unité, c'est de savoir que Jésus, lui qui vivait dans cette unité parfaite, il a quitté cette famille, il a quitté cette unité, il a quitté le ciel, et il est venu ici-bas, il est descendu, Paul rappelle ça, il est descendu dans les régions intérieures de la terre. Je pense qu'il a en tête déjà, il est descendu sur terre, et puis il est allé même jusqu'à la mort, jusqu'à la croix, et quelque sorte, en tout cas de manière symbolique, il a vécu l'enfer à notre place. Il a été séparé de l'unité de son Père. Il a été séparé pour nous inclure, pour nous inviter à rejoindre l'unité par excellence qui est celle de la Trinité. Et donc finalement, l'invitation de la Bible à tout homme, c'est d'entrer dans le cercle intime de Dieu, d'entrer dans l'unité la plus douce, la plus merveilleuse, l'unité parfaite d'amour que représentent le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble. Nous sommes invités à y entrer, à passer notre éternité dans cette unité-là. Et puisque c'est le dessein éternel, alors l'Église, chacun qui entre dans l'unité de Dieu, peut vivre avec d'autres. Quand on sait qu'on était tous indignes et pécheurs, mais tous rachetés par le même sang de Jésus-Christ, alors oui, nous pouvons vivre une grande unité.